Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Quand on referme l'album, on est sous le choc. Et c'est vrai qu'il reste longtemps dans la tête les ressorts de ce drame familial, de cette histoire terrible arrivée à deux adorables petites filles, deux sœurs jumelles, à la blondeur angélique, une mère à l'allure de marâtre de conte de fées, un père absent, beaucoup de non-dits et de secrets. Ajoutez-y quelques taches rouge sang et vous voilà en plein cœur d'un drame psychologique à suspense, terrifiant et en même temps tellement humain. Au dessin, le déjà expérimenté Olivier Grenson, co-créateur du diplomate espion Niklos Koda, de la série Carlton Cross et de quelques autres héros ou héroïnes. À ses côtés, Sylvie Roche qui signe son premier scénario de bande dessinée. Leur album La Fée Assassine est paru aux éditions du Lombard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Belgique. C'est votre premier scénario de bande dessinée, je le disais, Sylvie Roche. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans cette aventure?
Ah, ça a duré un petit temps avant que je m'y lance. En fait, moi, je travaillais dans le médical pendant 20 ans et j'écrivais plus par plaisir, par hobby. Et petit à petit, j'ai eu envie de développer ce sujet ici de la mère, de l'enfance. Et donc j'ai commencé gentiment à travailler là-dessus, en remettant toujours ça dans mes tiroirs et puis en le ressortant de temps en temps. J'avais pas de deadline, j'avais pas d'éditeur, j'avais pas de dessinateur, donc j'étais vraiment tranquille jusqu'au jour où l'histoire elle est née vraiment, et là j'ai eu envie de la propulser vers la bande dessinée.
Oui, vous connaissiez déjà de longue date un dessinateur de bande dessinée, il était pas très loin de vous.
Voilà, ça fait 31 ans que Olivier et moi on est ensemble, et donc c'est vrai que il n'était pas question que ce soit lui ou je n'ai jamais écrit ça pour lui, mais c'est venu un peu malgré nous. Tout à coup, ça s'est mis en place et voilà.
Elle vous suivait, Olivier Grenson, dans votre travail de dessinateur quand vous travaillez sur les scénarios des autres?
Oui, elle m'a toujours suivi. Moi, j'ai toujours eu le plaisir d'avoir son regard critique, attentionné et donc elle c'est vrai que quand elle m'a rencontré, elle connaissait pas grand chose à la bande dessinée. Et petit à petit, elle a découvert ce que c'était, la particularité de cette écriture texte-image. Mais je la voyais très très tôt écrire de son côté. Et voilà, sans savoir si elle allait développer ce hobby. Elle a commencé à écrire une histoire et un jour elle m'a montré tout le synopsis. Et je trouvais vraiment intéressant, mais jamais dans l'idée que moi j'allais le dessiner, et jamais dans l'idée qu'elle allait en faire une bande dessinée réellement. Je lui ai juste dit, si tu veux vraiment que ça devienne une bande dessinée, il faut le découper case par case. Et pour donner une concrétisation à ses écrits, je lui ai dit, pour que tu vois ce que tes écrits donnent en dessin, je vais faire un découpage, mais je l'ai fait de façon vraiment très très ludique, très décontractée, et en fait le tandem s'est mis en route comme ça, sans se rendre compte que on allait créer la fée assassine. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que on s'est pas dit voilà, Sylvie ne s'est pas dit j'écris une histoire pour toi parce que j'ai un dessinateur à la maison.
Alors la Tour Eiffel apparaît sur la première case de l'album, hein. Votre récit commence donc à Paris, on est un soir de Noël, et l'on découvre une belle jeune femme à l'air angélique, dont on découvrira plus tard qu'elle s'appelle Fanny, qui se retrouve en garde à vue au commissariat avec des traces de sang sur le corps. On sait donc qu'un drame, que quelque chose de très grave a eu lieu. Son mari, qui est médecin, débarque en catastrophe, il ne comprend pas que sa compagne se retrouve en position d'accusée, et elle va dérouler son récit à son avocat, elle va donc devenir ainsi la narratrice de sa propre histoire, pour son avocat et pour nous, lecteurs. Cette histoire, Sylvie Roche, c'est d'abord donc une affaire de famille à plusieurs niveaux, et ce qui frappe le premier, le lecteur, c'est que c'est d'abord l'histoire de deux sœurs jumelles, parce qu'on repart dans le passé, on découvre Fanny et sa sœur jumelle qui s'appelle Tania. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'explorer le thème de la gémellité?
Oui, donc la gémellité, je trouve que c'est quelque chose qui est justement pas assez exploré dans la littérature et encore moins en bande dessinée. Donc je trouvais que c'était effectivement très visuel et que ça pouvait apporter un très bel effet miroir entre ces deux personnages.
Alors la difficulté quand on dessine une BD, c'est déjà de reproduire le même personnage d'une case à l'autre, Olivier Grenson, avec éventuellement évidemment des costumes, des coiffures, des postures, des mouvements différents, avec des jumeaux ou des jumelles. Est-ce que ça signifie que la difficulté est doublée ?
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour moi, dans la bande dessinée, c'est une difficulté de faire en sorte que le personnage, quand il bouge, quand il change d'expression, quand on change de prise de vue, qu'on le reconnaisse, qu'il soit toujours le même, que c'est le même acteur en fait qui est en action. Et donc ici, ben j'avais le double de difficulté quelque part. Sauf que Fanny a quand même une autre attitude dans l'histoire, puisque c'est son point de vue, et donc elle se met elle-même en scène, et elle met sa sœur en scène. C'est un certain point de vue. Mais je savais, en tout cas dans les cases, bon, il y a des scènes particulières où on voit bien qui est Fanny et qui est Tania, mais moi, dans le jeu d'acteur, dans la façon de dessiner le regard, par exemple, je savais quand c'était Fanny ou quand c'était Tania. C'était vraiment important d'avoir cette subtilité parce que c'est vrai que ça ajoute quelque chose à l'histoire. Le caractère de Tania et le caractère de Fanny sont complètement différents. Mais physiquement, elles sont vraiment les mêmes.
Oui. Comment est-ce que vous avez déterminé justement leur apparence physique ?
Alors, c'est venu... Les personnages que j'ai mis en place, c'est venu de façon très naturelle, très instinctive. Sans doute que j'étais connecté avec ma scénariste d'une autre manière que habituellement, mais l'élément principal, c'est la façon dont mon dessin est guidé par les mots, par le texte, et en l'occurrence, en effet, c'est Tania qui raconte son histoire, qui se replonge dans son passé, automatiquement, c'est elle qui est mise quelque part un peu plus en avant, avec ses fragilités, avec son regard sur la mère, avec son regard sur sa sœur. Et donc voilà, c'est un peu cet axe-là que j'ai pris pour dessiner Fanny.
Blonde, forcément, le blond couleur de l'innocence ?
Alors pas forcément, parce que dès le départ, elles avaient des cheveux noirs jais. Oui. Parce que dès le départ, Sylvie m'avait dit ce serait vraiment bien que tu ailles dans la direction du côté sépia, monochrome, puisqu'on va être sur un retour dans le passé, sur des souvenirs, sur des blessures. Et elle m'avait dit dès le départ aussi qu'il fallait cette touche de rouge pour rythmer le récit. Et donc, moi, j'avais pensé justement à cette couleur noir jet pour les cheveux, pour trancher. Et finalement, ça a switché à un moment. Et notamment dans cette idée de donner au personnage une présence dans le graphisme qui est particulière. Et j'avais pensé notamment à cette petite fille qui joue dans Poltergeist, le film de Spielberg, qui a les cheveux presque blancs, ou bien Le Village des damnés. C'était un film qui m'avait marqué à l'époque, et cette image des enfants avec les cheveux très très clairs, je trouvais que c'était déjà en soi quelque chose d'intrigant. Et donc on est reparti sur cette idée des cheveux qui donne un peu cette identité graphique aux jumelles.
Alors, en même temps, vous jouez aussi sur la ressemblance, sur l'effet miroir, souvent, pas toujours, mais très souvent elles portent les mêmes vêtements, donc c'est quand même aussi important de jouer avec le lecteur.
Oui, mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est un jeu, et un jeu que j'aime bien installer dans le sens où, dès le départ, en complicité avec Sylvie, il y a des cases qui donnent cet effet de miroir, d'adéquation, de symbiose entre les personnages. Il y a notamment au début de l'histoire quand Thibaut, le copain de Fanny, vient la voir au commissariat, il y a ce reflet de son visage qui vient se fondre avec le visage de Fanny. C'est des petites choses que je trouvais intéressantes, et en effet un jeu avec le lecteur qui va peut-être voir à certains moments certaines choses ou pas, qui va peut-être les découvrir à la seconde lecture, mais il y a des petites des petites graines qui sont semées tout au long de l'histoire.
C'est vrai, et en même temps on se dit Sylvie Roger que vous auriez pu aller encore plus loin, par exemple dans les prénoms vous auriez pu les appeler Emma et Ella, Alice et Aline, Coraline et Caroline, Jade ou Jane. Vous avez choisi Tania et Fanny qui sont deux prénoms très différents, même d'origines différentes. Pourquoi ?
Ah non, c'est si différent que ça, vous trouvez ? Fanny, Tania, non, je sais pas, ça m'a pas... Je sais pas pourquoi.
Mais il n'y a pas d'homophonie, vous voyez. Je me suis dit Alice et Aline, Coraline, Caroline, ça aurait été encore plus troublant pour le lecteur.
Ah, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi je suis partie en tout cas sur ces deux prénoms-là, mais à un moment j'ai voulu changer. Enfin, Olivier aurait voulu qu'elle ne s'appelle pas Tania, et il m'avait dit oh pourquoi pas Tina. Je ne sais pas, ça lui plaisait mieux. Et on a essayé, et c'était une évidence. Je sais pas pourquoi les personnages, quand on les écrit, parfois il y a une évidence. La maman d'ailleurs tout à l'heure vous avez dit qu'elle c'était Angélique mais en fait c'est Cécilia mais c'est bizarre, on s'accroche à un personnage et on se dit je ne peux pas lui donner un autre prénom que ça, et ici c'était aussi une évidence. Alors il y a peut-être aussi le fait que l'oncle et la tante avaient envie d'avoir des enfants, et ils disent à un certain moment de l'album si on avait eu des enfants on aurait aimé leur donner comme prénom Fanny et Tania. Voilà, c'était des choix, mais pas pour des jumelles, peut-être pour des enfants qui auraient eu quelques années de différence. Donc voilà, ce n'est pas, j'avais pas spécialement envie que ce soit trop, comme vous dites, trop semblable l'un à l'autre. C'est parce que au départ, ça doit pas être des jumelles dans la tête de Polly et de Louis, les oncles et tantes. Ce n'était pas censé être des jumelles, quoi.
En épigraphe de l'album, Sylvie Roge, on peut lire une citation du sociologue américain Eric Fromm. Le paradoxe de l'amour réside dans ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. C'est encore plus vrai, selon vous, quand il s'agit de l'amour entre deux jumelles ?
Oh, encore plus. Oui, enfin, je crois que il faut rester soi-même. Oui, malgré l'amour qu'on peut porter, il faut quand même garder sa propre identité et son propre chemin. Et ici, effectivement, dans ce livre, on remarque que malgré leur terrible ressemblance et leur terrible amour, il y a une terrible dissociation aussi entre les deux.
Rolling up the walls inside.
Amy Winehouse, Back to Black dans VMDN sur RFI avec la scénariste Sylvie Roche et le dessinateur Olivier Grenson pour leur album La Fée Assassine aux éditions du Lombard. On évoquait les jumelles, Fanny et Tania, il y a un instant. L'autre personnage principal du récit, c'est la maman, qui est un personnage à la fois terrible, terrifiant, tant elle peut être méchante et manipulatrice, mais aussi extrêmement malheureuse. Comment est-ce que vous avez composé le personnage de la mère, Sylvie Roche?
Ben, je la voulais pas. Oui, et bien sûr, c'est une marâtre, et ça, les gens qui vont lire l'album vont s'en rendre compte, que beaucoup de gens la détestent. Mais je ne voulais pas qu'elle soit uniquement une marâtre. Je voulais quand même qu'elle ait quelque chose d'humain. Et donc, j'ai voulu lui donner un passé qui fait qu'on puisse quand même comprendre qui est cette femme, pourquoi elle est parfois aussi désagréable et aussi difficile à vivre, parce qu'elle a effectivement ses propres blessures et qu'elle a du mal à se gérer elle-même. Donc, gérer les autres est encore sans doute plus compliqué pour elle.
C'est parce qu'elle souffre qu'elle fait souffrir ?
Ah oui, je pense vraiment que son démarrage dans cette façon de se comporter vient vraiment de la souffrance qu'elle a ressentie, elle. Et donc, elle ne supporte pas, je pense, le bonheur des autres. Ça la rend folle de rage, et donc ça la rend folle tout court de regarder ce qui se passe finalement, que ce soit chez son frère quand il est avec sa femme, et qu'elle voit que c'est une forme de bonheur qu'elle ne peut pas atteindre. Et donc, elle est un peu dans ce côté destructeur du bonheur des autres.
Voilà, on va pas tout dire, mais effectivement, le papa hein, des jumelles n'est pas là. Et on sent effectivement que le souvenir de cet homme continue de peser sur la vie de la famille. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, au début de l'album, que cette mère est méchante gratuitement vis-à-vis de ces jumelles. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué au fil des pages. Mais c'est vrai quand même que les scènes que vous avez imaginées, Sylvie Roche, et que vous avez dessinées, mises en scène, Olivier Grenson, sont quand même extrêmement terribles. La première, c'est la scène du coiffeur. Alors ça a l'air de rien comme ça, et quand on se met à la place d'une fillette de 7 ans, hein, comme c'est le cas de Fanny dans cette scène, on se dit que c'est terrible. Vous nous racontez, Sylvie Roche?
Ben oui, c'est très troublant. Enfin, moi, je n'ai pas écrit mon histoire, mais en tout cas, j'ai écrit des sensations qu'on peut ressentir. Et personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que je détestais, d'aller chez le coiffeur quand j'étais enfant. J'avais toujours peur qu'on me coupe les cheveux trop courts. Et je pense que c'est ce vieux syndrome qui a dû me réveiller de nouveau pour mon histoire, en me disant, mais non, 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 ça, c'est quelque chose de très atroce. Je dois absolument le mettre. Et je trouve effectivement que toucher à la coupe de cheveux de quelqu'un, c'est quelque chose de très dur.
Donc,
je ne sais pas pourquoi.
Oui, ça fait partie de l'identité du personnage, ça fait partie de l'identité visuelle et même psychologique aussi, la coiffure, Olivier Grenson, parce que souvent en bande dessinée, on se dit, bien, le dessin, c'est un moyen d'exposer au lecteur la psychologie du personnage. Vous le pensez aussi ?
Ah oui, tout à fait. Et de trouver le physique d'un personnage en fonction de ce qu'il va véhiculer comme narration, c'est super important. C'est pour ça qu'on fait toujours beaucoup de croquis, beaucoup de recherches. C'est un vrai casting, en fait, comme au cinéma. Et la coiffure, c'est vraiment l'élément. Alors, en tout cas, en dessin, sans doute pas quand on est dans du live, mais en dessin, la coiffure est un élément déterminant. C'est très difficile quand on dessine du réalisme de changer les codes de représentation. Et les cheveux, par contre, c'est ça qui va faire que le lecteur va tout de suite identifier tel ou tel personnage. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la couleur des cheveux. Oui, ça a été un élément vraiment important, quoi. Et c'est pas facile à dessiner, les cheveux. J'éprouve souvent des difficultés. Mais par exemple, vous savez que si vous prenez un schtroumpf et que vous lui mettez un petit béret rouge, ça fait Pirlouit, plutôt.
Ah oui, c'est effectivement...
Et donc, parfois, le visage reste le même, mais c'est la coupe de cheveux ou bien la coiffe qui fait le personnage, quoi.
Voilà, on est vraiment effectivement très en empathie, hein, avec Fanny et avec sa jumelle aussi, hein, d'ailleurs, à travers cette première scène vraiment marquante et qui en dit long sur la psychologie de la maman. Et il y en a une autre aussi dans laquelle on sent une méchanceté insidieuse, sournoise, un peu en biais. C'est une scène qui commence en bas de la page 57 de l'album. Les deux jumelles sont dans la rue avec leur mère et soudain Fanny repère un joli vêtement dans une vitrine.
Regarde Tania, c'est la veste qu'on adore. Oui, trop belle.
Venez les filles, entrons voir s'il y a encore votre taille.
Bonjour, je peux vous aider ?
Mes filles adorent la veste rouge de la vitrine.
Ah oui, toutes les jeunes filles aiment ce modèle. Elle est très à la mode. Et quel âge ont vos jumelles ?
Elles vont bientôt avoir 10 ans.
C'est celle-ci, n'est-ce pas ?
Oui !
Voilà le 10 ans.
Merveilleux ! Vas-y Tania, essaye-la. Superbe ! Elle te va à merveille.
Hélas, madame, c'est la dernière.
Oh, quel dommage. Mais elle est trop belle. Nous la prenons.
Mais pour qui ?
Mais pour toi, Tania. Ne dit-on pas l'essayer, c'est l'adopter ? Nous trouverons bien quelque chose pour ta sœur un autre jour. Tu viens, Fanny ?
Une fois de plus, notre mère avait réussi. Malgré moi, je me suis mise à détester ma sœur. Cela ne dura pas longtemps. Nous avions l'art de rebondir en trouvant des solutions à tous nos problèmes. Alors, nous nous partagions l'anorak à son insu. Mais un soir, en rentrant de l'école, j'ai oublié de rendre l'anorak à Tania. Notre mère n'a pas aimé l'échange. Le lendemain, la veste avait disparu. Nous avions été plus rusés qu'elle, et ça, elle ne pouvait le supporter. La punition fut terrible.
Dis au revoir à ta sœur. Elle ne revient que dans une semaine. Allez Tania, viens maintenant. On rentre à la maison. Il va pleuvoir.
Maman ne nous frappait pas. Jamais de coups, pas une gifle. Mais ses attitudes étaient sournoises, vicieuses, d'une violence difficile à exprimer, surtout pour des enfants. Reviens vite Fanny, reviens vite, tu me manques déjà.
Tania, il pleut.
J'ai regardé Tania sur le trottoir, jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
Ouais, et l'on voit Fanny dans le bus qui s'éloigne. Regardez Tania rester sur le trottoir et ses larmes se mêlent à la pluie. C'est vraiment une scène vraiment poignante. Hein. Moi-même, d'ailleurs, j'étais quasiment au bord des larmes aussi. C'est vrai qu'on est très souvent extrêmement ému, extrêmement touché par ce récit. Hein. Vous parvenez vraiment, Sylvie Roche et Olivier Grenson, à nous faire ressentir très fortement les émotions ressenties par les deux fillettes. On est vraiment en empathie totale avec elles. Il faut dire, Sylvie Roche, qu'on est quand même là, dans cette scène-là, dans une méchanceté, une perversité à peine croyable. On se dit que ça relève de la psychiatrie, quoi.
Oui, on peut dire ça. C'est vrai que c'est pas, comme elle dit, c'est pas des coups, c'est pas des gifles, ça peut être bien pire. On se rend compte qu'avec les mots et les actes qui paraissent anodins, ben on peut faire beaucoup de mal à un enfant, mais même à un adulte, parce que ce n'est pas réservé qu'à l'enfant. D'ailleurs, on le suit dans l'album. C'est quelque chose qui va être récurrent pendant leur vie. Et c'est vrai que j'essaye de donner ce sentiment très fort en me glissant moi-même dans le personnage et en m'imaginant ce que l'une et l'autre peuvent ressentir ou comment ça peut être dit. C'est peut-être ça qui touche assez fort le lecteur, en fait.
Alors, il faut préciser, Olivier Grenson, que l'anorak qui se trouve au cœur de cette scène est rouge. Comme sont rouges les boules de Noël sur le sapin, les ballons de baudruche qui s'envolent dans le ciel, les imperméables des deux petites, leurs bonnets de bain quand elles vont à la piscine, leurs maillots ou leurs jupes quand elles vont à la plage, une étoile que l'on croise sur leur t-shirt, le fauteuil du coiffeur, le verre de vin aussi que les adultes sirotent en discutant. Il y a d'autres exemples, hein, on va peut-être y venir dans un instant. Pourquoi, sans jeu de mots, ce fil rouge graphique dans votre récit ?
Alors, tout simplement, c'était une volonté de Sylvie Elle avait vraiment cette envie de cette couleur qui vient rythmer l'histoire, qui est cet élément presque en pas en filigrane, justement le contraire, cet élément qui est la petite sonnette qui annonce le drame. Le drame est annoncé dès le départ de l'album. Il y a pas de surprise. C'est pas comme dans les Agatha Christie où on se demande qui est l'assassin. Ici, tout le scénario a été construit d'une autre manière, et il y a ce côté crescendo. À un certain moment, quand on en parlait avec Sylvie, on parlait comme d'une symphonie qui va monter petit à petit, où la musique accompagne. On a entendu, on va peut-être en reparler, on a entendu tout à l'heure Amy Winehouse, mais la musique est assez présente, et cette symphonie monte crescendo, et le rouge accompagne cette symphonie. Un anorak rouge, c'est pas tellement... C'est plutôt anodin,
oui.
C'est pourtant pas tellement effrayant, mais évidemment il y a le rouge qui symbolise l'amour, mais il y a le rouge aussi qui symbolise le sang et la mort.
Le ballon rouge qui est porté par les enfants et qui parfois peut s'envoler dans le ciel sans qu'on sache exactement vers où, c'est tout un symbole ça aussi.
Oui, mais... Plus qu'un symbole, c'est une métaphore à plusieurs niveaux. C'est vrai que les deux ballons l'un à côté de l'autre dans le ciel de Paris qui s'éloigne au-dessus du Sacré-Cœur, il y a cette idée, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais cette idée de deux spermatozoïdes aussi. Et donc ça, c'est aussi une anticipation à certaines choses qui sont dévoilées plus tard. On peut pas trop en dire.
Non, faut surtout pas, dévoiler, surtout pas, surtout pas. Mais c'est vrai que quand on relit
l'émotion qu'on a essayé.
Ouais. Mais c'est vrai que quand on relit l'album pour la deuxième fois, on voit effectivement des petits détails qui auraient peut-être pu nous mettre davantage la puce à l'oreille, parce que c'est vrai que vous installez un suspense et en même temps, quand on comprend tout à la fin, c'est vraiment un moment très fort, un moment frappant.
Et le ballon, c'est aussi le rapport à l'enfance, surtout au départ. Hein. C'est vraiment ce lien-là, quoi. Et l'innocence de l'enfance, qui est un élément important. Ouais.
Pour rester dans les couleurs, Olivier Grenson, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas exactement dans le monochrome, mais on en est quand même pas très très loin.
Alors c'est vrai que j'ai toujours eu envie de simplifier mon dessin, de simplifier les couleurs. De nouveau, Sylvie qui a regardé toute l'évolution de mon travail depuis plus de 30 ans maintenant m'a toujours guidé vers quelque chose qui va vers l'épuration. Et ici, malgré moi, j'ai mis au point une technique qui met en place le crayonné, pratiquement le crayonné de départ, parce que dans la bande dessinée, il faut savoir que c'est une multitude d'étapes qui fait le résultat final. C'est-à-dire qu'on commence par des croquis, des recherches de décors, des recherches de personnages, un premier crayonné, un deuxième crayonné, puis on va faire un ancrage sur le crayonné, et puis une mise en couleur. Et le crayonné, qui est très instinctif au départ, disparaît sous ces couches-là. Et donc ici, c'était vraiment l'idée d'avoir un crayonné. Et puis pratiquement, ce crayonné est imprimé et c'est le résultat final. Sauf qu'il fallait la couleur. Et donc j'ai travaillé sur le crayonné à un lavis très monochrome, très simple. Et je suis revenu au crayon de couleur sur ce lavis-là pour donner des contrastes, pour donner des matières, pour donner un peu plus de vie en essayant de donner parfois des couleurs chères, des couleurs un peu plus jaunes, un peu plus ocre, un peu plus foncé pour quand même avoir un dessin en volume.
Alors,
et le rouge qui vient faire claque à chaque moment où il est mis en scène.
Alors par exemple, page 170, Olivier Grenson, vous dessinez la mer avec une veste un peu grise, avec un collier de perles, avec un top framboise. Alors on va pas dire évidemment les mots qui se trouvent sur cette planche pour ne pas spoiler ou divulgacher pour parler en français, mais c'est une scène dans laquelle la mer se met en colère, et autant les couleurs sont pastel, autant la scène en elle-même est au contraire très âpre. C'est même une scène de colère assez terrifiante. Comment est-ce que vous dessinez la couleur et comment est-ce que vous accentuez justement le contraste entre ce côté pastel des couleurs et la violence de la scène ?
Alors, Oui, c'est quelle page encore?
170.
Ah oui. Mais c'est vrai que j'y vais par couches successives. Je commence par un lavis qui est très léger, et puis les contrastes montent petit à petit. Mais il se fait que sur cette page-là, c'est venu vraiment... Je revoyais encore le croquis tout à l'heure, par hasard, on est vraiment sur la même page, et c'est venu comme des dessins de croquis qui viennent se monter les uns à côté des autres. Et il y a un jeu de superposition. Pour cette page, en fait, j'ai été inspiré par une scène terrible dans un film dans le film Requiem for a Dream. Et où on a une dame qui est face à cette télé et qui est complètement droguée par les médicaments. Et il y a un jeu comme ça de flou qui s'installe. Et j'avais pensé à cette scène-là pour la superposition du visage. Et cette superposition, elle, comme les dessins s'entremêlent, c'est comme si c'était un monstre qui se créait dans la page.
Oui, et il y a un visage que beaucoup d'enfants ou d'anciens enfants reconnaîtront. Hein, c'est la méchante reine de Blanche-Neige version Disney. Alors, elle est présente à d'autres moments de l'album. Comment et l'idée justement vous est venue de confondre le visage de la mère avec le visage de ce personnage-là qui est dans l'imaginaire collectif de beaucoup de gens?
Alors je ne sais plus exactement comment ça s'est mis en place dans le récit. En tout cas, moi j'avais très vite, en lisant l'histoire de Sylvie, eu la sensation d'un conte moderne. Mmh. Bon, c'est clair que dans le récit, Sylvie faisait appel aux rêves, aux contes qui étaient racontés par la tante, et puis au cauchemar, ce contraste qui vient se mettre presque en vis-à-vis, en tout cas. Et donc, je me suis dit que c'est vrai, là, il y avait quelque chose à exploiter. C'est l'image qui va suggérer pour les lecteurs des souvenirs de lecture, des souvenirs de peur dans l'enfance, quand on raconte l'histoire de Blanche-Neige, notamment. Et donc, l'idée que les filles, tout à coup, associent la mère à une méchante sorcière dans un conte, en tout cas une méchante reine, je trouvais que c'était un élément graphique qui était intéressant, parce que cet élément graphique, à un certain moment, et en tout cas dans cette page, notamment 170, il vient comme une image un peu subliminale qui rappelle des souvenirs et qui font monter les émotions. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
Oui, et puis page 65, les deux jumelles dorment. Elles font d'ailleurs le même rêve. Et leur rêve, il y a une énorme bulle dans laquelle vous dessinez des personnages de contes. Alors ça va de Cendrillon à Blanche-Neige, Bambi, Alice au Pays des Merveilles, avec les codes graphiques de Disney.
Oui, alors j'ai essayé de les bousculer un peu, mais c'est vrai que dans notre culture occidentale, on est très imprégné de ce que Walt Disney a créé. J'ai essayé un peu de modifier l'aspect des personnages malgré tout, mais en m'inspirant, il fallait ce rappel. Bon, c'est vrai que Tim Burton a transcendé complètement Alice au Pays des Merveilles. Voilà, il y a des petits personnages qui sont parmi tous ces personnages un peu différents. Mais c'est ça l'idée. C'est vraiment que cette image tout à coup rappelle toute une série de récits qui sont les récits des contes et de la complicité d'un parent qui raconte une histoire. Et puis quand on tourne la page, c'est le contraste. Et c'est ça que cette page-là vient à droite, parce que évidemment elle devait surprendre le lecteur par le cauchemar qui s'enchaîne derrière.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre,
fêtes ni de gens s'aimaient. Ils étaient trop fragiles. Ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé.
Kiki, Julien Doré dans VMDN sur RFI avec Sylvie Roche et Olivier Grenson pour leur roman graphique La Fée Assassine aux éditions du Lombard. Alors c'est une tradition dans cette émission, Olivier Grenson, le dessinateur doit décrire et expliquer le choix de la couverture. Eh bien c'est votre tour.
Ah mais c'est une belle histoire parce que très vite on avait décidé Sylvie et moi d'une couverture où on voyait Fanny et Tania. Mais c'était un visuel qui était lié aussi au premier titre de Sylvie. Et le premier titre, c'était La Fée Paradoxe. Et le mot paradoxe était écrit en noir avec juste le X en rouge. Donc il y avait quelque chose de très graphique dans cette couverture. Mmh. Et puis le mot paradoxe avait son importance quand même dans l'idée de... Voilà de ce que ça voilà de rapport en tout cas entre Tania et Fanny. Mais il se fait que avec l'éditeur on a changé le titre voilà pour des raisons X et Sylvie a tout de suite rebondi avec en proposant La Fée Assassine et finalement qui s'impose vraiment bien. Mais une fois qu'on a connecté bizarrement, c'est étrange toujours le rapport texte-image comme ça, une fois qu'on a connecté La Fée Assassine avec le premier visuel, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus et on était d'accord tous les deux, Sylvie Roche et moi, et c'est Sylvie qui en revoyant les planches et en voyant chercher notamment avec la métaphore de la noyade, et c'est elle qui a mis le doigt sur une case en disant « Eh, mais ça pourrait faire une bonne couverture ». Et donc c'est ce personnage à l'envers qui est en train de se noyer, qui est vraiment une métaphore dans l'histoire, qui est un moment à part dans tout le récit, mais qui exprime bien le désarroi de Fanny. Et qui est en résonance avec le traumatisme qui a dû se mettre dans l'enfance en elle et qui a fait qu'à un certain moment voilà il y a eu un pétage de plomb. Et donc c'est vrai que cette couverture à la fois elle est très lumineuse contrairement aux couleurs dans l'album puisqu'il y a ce bleu qui prend toute la place, et puis il y a le rouge dans le bonnet qui contraste et qui est en résonance avec le titre, et puis il y a cette bulle qui sort de la bouche de Fanny, qui est comme cette respiration, comme cette envie de dire quelque chose, mais quelque chose qui n'arrive pas à sortir de sa bouche. Et l'éditeur, encore une fois, il lui manquait quelque chose. Et encore une fois, c'est Sylvie qui a eu l'idée de mettre une petite touche de rouge dans cette bulle, comme si voilà, le traumatisme qui est en elle s'exprimait par la couleur.
Vous évoquiez, Olivier Grenson, le rapport entre texte et image. Je voudrais, là encore, sans divulgâcher, évoquer la dernière partie de l'album, parce que la révélation... pour un personnage majeur du récit et pour le lecteur à travers ce personnage-là, passe par un carnet qui contient une série de notes avec des photos qui révèlent une sorte de secret de famille. Alors, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de mots, en plus c'est en écriture cursive, vous avez dû vous amuser pour le lettrage. Comment rendre cette scène clé addictive et la moins rébarbative possible, graphiquement parlant ?
C'est génial, parce que quand j'ai lu son scénario... il y avait cette scène du carnet, et pendant toute la première, tout le travail du début, parce que bon, le carnet arrive, je sais plus à quelle page, mais assez loin dans le récit, mmh. Et pendant tout le travail, je me demandais comment j'allais le transcrire, justement pour pas qu'il soit rébarbatif, trop verbeux. Et petit à petit, il y avait cette idée du graphisme, de mettre des images qui sont collées avec du papier collant, de donner finalement quelque chose de visuellement très très fort. Mais ça me permettait aussi, par rapport au texte qui est inscrit dans un carnet, de jouer avec les images, des images qui sont tour à tour, ben des images du réel qui sont les moments qui ont été vécus par les protagonistes, mais qui sont aussi des images qui sont collées dans ce carnet par l'oncle. Et c'est vrai que l'écriture du texte était important. J'ai été rechercher une encre d'un porte-plume pour avoir vraiment cet aspect-là. J'ai poussé le vice jusque refaire moi-même les textes pour des versions étrangères, pour garder vraiment... L'écriture devient, dans ce passage-là, vraiment un dessin, quoi.
C'est, oui, un outil graphique, vraiment, effectivement.
Ça fait partie du graphisme, oui, quoi. Et alors, l'autre point qui est important, c'est que dans l'histoire, et ça, c'est vraiment... Bon, Sylvie pourra en parler, c'est vraiment bien vu par rapport au rythme de la narration, c'est que, tout à coup, par la lecture de Fanny... on arrive dans le point de vue d'un autre personnage qui, en l'occurrence, est l'oncle, donc
oui.
Le frère de la sœur.
Alors, Sylvie Reuve, on le disait au début de l'émission, c'est votre première bande dessinée. Vous allez réitérer l'expérience ?
Oh, ben j'espère bien. Maintenant, j'ai déjà mon prochain roman graphique est déjà prêt et découpé.
Avec le même dessinateur ?
Ah, mais c'est ça que je voudrais bien. Poussez-le. non, mais ce serait vraiment idéal. Maintenant, Olivier a des projets aussi plus personnels. Donc, il voudrait d'abord faire une autre histoire tout seul. Et puis après, peut-être revenir vers moi. Ou alors, moi, j'irai vers un autre dessinateur s'il prend trop de temps.
Eh bien, on va suivre votre prochaine histoire, en tout cas à tous les deux, en commun ou séparément. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à
beaucoup,
vous.
En tout cas.
La Fée Assassine, signé Olivier Grenson et Sylvie Roche aux éditions du Lombard. Et bonjour Alain Pilon.
Bonjour Jean-François, bonjour Sylvie Roche et Olivier Grenson.
Deville, Atlantique dans VMDN, extrait du mini-album du même nom, un duo maroco-québécois.
Oui, Jean-François, Simon Pierre pour le Québec et Ziad Koulaï pour le Maroc, tous deux établis à Montréal, respectivement musicien, compositeur, producteur et chanteur. Et comme les étiquettes musicales ne sont pas qu'une spécialité française, ils ont droit également au Québec à celle de musique du monde. Eux préfèrent musique québécoise. Définition.
Honnêtement, au sens très large, c'est de la musique qui a été faite ici. Je pense qu'on fait de la musique québécoise un peu en opposition à l'appellation « musique du monde ». C'est une manière de déconstruire ça. À la définition, ce serait n'importe quel projet qui a commencé ici, qui existe simplement parce que les gens qui l'ont commencé étaient au Québec, étaient à Montréal ou ailleurs. C'est vraiment une question de très géographique, je crois.
De leur premier essai « Sable », ils aiment à le présenter comme un disque 100% montréalais, c'est-à-dire...
Bah, il était conçu à Montréal. En tant que Montréalais, on a essayé de la partager dans cet album.
Avec plein de musiciens et des artistes qu'on a découvert vraiment dans la scène de jam, la scène de live music, la scène genre d'artistes à Montréal. Fait que c'est un projet qui n'aurait pas pu exister ailleurs à cause de vraiment ces rencontres qui sont propres à l'endroit où on est.
Ouais, car Montréal, ça reste une ville super multiculturelle. Genre, il y a plus que 96 nationalités. On trouve de tout quand même à Montréal. Bon, on a essayé quand même de faire rayonner cette richesse.
Mon amour, c'est pas vous que j'appelle comme ça, Alain, évidemment. C'est en tout cas cet extrait donc du premier disque de Deville. Quel est leur cursus ?
Alors Simon, enfant, lui a pris des cours de clarinette, sa seule formation musicale. Après, il y a eu la guitare vers l'âge de 14 ans. Il jouait en reprenant ce qu'il aimait entendre, comme quoi.
genre du vieux rock comme Led Zeppelin, des trucs comme ça, ou genre du blues. Mais en fait, à la clarinette, c'est différent. Des trucs un peu genre John Williams, les chansons de films comme Jurassic Park, ces choses-là. À chaque semaine, il me donnait des exercices que je devais faire et maîtriser la semaine d'après. Mais je les avais jamais pratiqués, mais à la fin, on pouvait comme freestyler un peu. Puis là, je sortais genre le thème de Harry Potter, des trucs comme ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que genre j'aimais pas tant la théorie comme telle. Après, j'ai dû me rattraper parce que la théorie, c'est vraiment important. Donc, si je pouvais parler au moi quand j'étais kid, j'aurais dit d'apprendre quand même la théorie parce que ça aurait été fait. N'importe qui veut commencer un instrument, je pense que pour se faire la main un peu, c'est vraiment intéressant de juste essayer d'apprendre des trucs qu'on aime écouter. Comme ça, c'est vraiment juste très, très, très motivant plutôt que de rendre ça très académique, essayer de faire des exercices, des doigts de doigté et tout, genre dès le début.
Quant à Ziad, Jean-François, cela fait une quinzaine d'années qu'il fait de la musique. Il a commencé à 16 ans, jouant dans des bars de moustachus, comme il le précise, à Rabat, avec des groupes inconnus. Nous en dit un peu plus.
Je remplaçais des fois c'était avec des bands qui faisaient l'ambiance dans des petits coins à Rabat, ouais. C'était drôle, c'était cool. J'ai plein de choses à raconter, mais je sais pas si ça pourrait passer à la radio.
Deville, Dopamina dans VMDN sur RFI.
Pour eux, sable, c'était le concept de la perte, de l'effritement. Quand nous tenons le sable dans nos mains, il y a quelque chose de tangible, mais en même temps, dès que nous le serrons un peu, tout tombe. Qu'en est-il d'Atlantique, Simon ?
Atlantique, je pense que c'était plus... Il y avait peut-être un peu la même thématique, mais plus l'idée de renouveau, de changement, d'évolution, tout ça. C'est plus que juste regarder en arrière. Continuité. Je réalise que c'était peut-être la continuité, en fait. J'ai vraiment réfléchi à comment les deux s'enchaînent. C'est clairement la continuité, en fait, de sable sur le plan genre conceptuel, si on veut.
En revanche, ce qui pourrait changer totalement la couleur musicale de Deville, ce serait cette chanson country qui traînerait quelque part. Qu'allez-vous en faire ?
Wow, c'est drôle parce que c'est sur mon ancien ordinateur de studio. Puis l'autre fois, j'ai réouvert l'ordi pour aller chercher des vieux projets puis écouter un peu des idées qu'on avait eues il y a un an ou deux. Puis honnêtement, c'est quand même excellent. C'est vraiment pas mauvais. Ça fit pas dans notre catalogue, mais c'est vraiment pas mauvais. Je pense qu'un jour, si on fait un show comme en région qui part au Québec, on va peut-être ouvrir avec cette chanson-là.
De la musique country, pourquoi pas. Sur le prochain album, il suffit juste que tous les deux s'accordent.
En effet, à ce propos, quel serait l'accord parfait pour eux?
Wow, attends.
C'est la plus question la plus difficile.
Pour moi personnellement, ce que je considère comme l'accord parfait, c'est disons quand je fais une première, tu sais, je fais une idée d'instrumental, une démo ou quoi que ce soit, qui m'excite pas plus qu'il faut, que je suis comme ah, ça a peut-être un potentiel, puis je la fais entendre à Ziad, que lui il pose dessus, puis que l'instrumental prend tout son sens à mes yeux, tu sais. Je pense que c'est vraiment là pour moi qu'il y a comme le déclic qui se passe quand genre Ziad pose sur une instru une démo que j'ai fait, puis que là la démo je la comprends. Soudainement, tu sais, qu'elle prend vraiment tout son sens.
Merci, Choukran Bézef, d'avoir répondu à nos questions de l'autre côté de l'Atlantique.
Merci à toi, frérot, ça fait plaisir. C'est l'entrevue la plus cool qu'on a eue jusqu'à date, genre.
Ouais, grosse question, ça nous a fait travailler.
Ça, vraiment, vraiment, merci beaucoup.
Water Deville sur le disque Atlantique. Merci Alain. Dans un instant, le journal. Demain, Oasis Diop pour son nouvel album De la glace dans la gazelle qui sort vendredi prochain. Et vous m'en direz des nouvelles.